Bonjour les auditeurs de Radio Galère 88.4 et comme chaque semaine, on se retrouve pour une heure en Palestine. Et tout de suite, on passe au vif du sujet.
Il n'y avait pas d'arbres dans son vocabulaire, pas de fleurs. Dans son vocabulaire, il n'y avait pas d'oiseaux. Il ne savait que ce qu'on lui avait appris, tuer les oiseaux d'abord. Et il a tué les oiseaux. Haïr la lune ensuite. Et il a haï la lune. Avoir un cœur de pierre. Et il a eu un cœur de pierre. Et puis s'écrier. Vive n'importe quoi. Abat n'importe quoi. À mort n'importe quoi. Il n'y avait pas d'arbre dans son vocabulaire. Dans son vocabulaire, il n'y avait pas toi et moi. Car il devait nous tuer. Il ne savait que ce qu'on lui avait appris. Nous tuer, toi et moi. Moïn Psisso, poète palestinien de Gaza.
Ils s'appellent Christophe, Raled et Yasmine. Ils reviennent de Gaza où, dans des conditions terribles, ils ont contribué à soigner les malades et blessés. Le collectif Palestine en résistance est fier et heureux de les accueillir le 15 juin et vous invite à participer massivement cet après-midi. Une contribution libre aux frais est souhaitée et vos dons seront recueillis pour aider nos partenaires sur place, à Tfaluna et Ibn Sina, à fournir un soutien psychologique aux femmes et enfants qu'ils rencontrent. C'est de 14h à 18h, 15 impasse Flammarion, 1301 Marseille. Vous pouvez y venir par le tram, à l'arrêt national, par le métro réformé Canebière ou Saint-Charles et prendre le bus 49 à l'arrêt Isoar Flammarion. Il y a aussi la possibilité de se garer.
Bloquez les bateaux. Mettez fin au transfert d'armes par voie maritime vers Israël. Une déclaration de la campagne internationale boycott des investissements en sanctions. Des navires traversent actuellement la Méditerranée en passant par le détroit du Gibraltar, transportant des armes destinées à Israël pour commettre un génocide contre 2,3 millions de Palestiniens à Gaza. L'approvisionnement continu en armes par voie maritime a permis à Israël de poursuivre ses atrocités indicibles à Gaza et d'intensifier ses attaques et ses meurtres contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée. Grâce aux récentes mobilisations de la société civile en Espagne, notamment les actions de sensibilisation et les manifestations menées par notre partenaire Rescope, un navire transportant très probablement des armes à destination d'Israël a évité d'accoster à Carthagène, échappant ainsi à la fouille. Le navire est arrivé le 23 mai 2026 à Koper, en Slovénie, où les militants ont exigé qu'il soit fouillé et que toute livraison d'armes à Israël soit stoppée. Un deuxième navire, le Marian Danica, s'est vu refuser l'escale par les autorités espagnoles en motif qu'il transporte des armes à destination d'Israël. Il est maintenant en route vers le Monténégro où il devrait arriver le 28 mai au matin. D'autres navires soupçonnés de transporter des armes entreront bientôt en Méditerranée. Le Comité national palestinien, BDS, la plus large coalition palestinienne à la tête du mouvement BDS mondial, appelle les militants et militantes, les syndicats et les groupes de la société civile à faire pression sur les parlementaires, les gouvernements et les entreprises pour qu'ils respectent leur devoir légal et moral d'arrêter dès maintenant les livraisons d'armes à Israël. Plus de 810 000 Palestiniens et Palestiniennes recherchent refuge à Rafah ont dû fuir une fois de plus face à l'invasion sanglante d'Israël. L'UNRWA a été contrainte de suspendre toute distribution d'aide, ce qui a intensifié les conditions de famine. Dans le nord de Gaza, Israël a attaqué l'un des derniers hôpitaux en activité, l'hôpital Kamal Adwan. Le procureur général de la Cour pénale internationale a finalement demandé des mandats d'arrêt contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense Yoav Gallant pour persécution, extermination et ou meurtre en violation des articles 7.1b et 7.1a, y compris dans le contexte des décès causés par la famine en tant que crime contre l'humanité. Malgré ces atrocités, les gouvernements occidentaux ont continué à fournir des armes au génocide israélien. Des dizaines d'experts des droits de l'homme des Nations Unies ont fait valoir l'obligation légale de tous les États de cesser leurs relations militaires avec Israël et le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies directement appelé à mettre fin à la vente, au transfert et au détournement d'armes, de munitions et d'autres équipements militaires au profit d'Israël, la puissance occupante, afin d'empêcher de nouvelles violations du droit humanitaire international et des violations et abus des droits de l'homme. Les transferts d'armes vers Israël violent le traité sur le commerce des armes, plusieurs autres traités internationaux aussi. Tous les signataires de la Convention sur le génocide ont le devoir de prévenir, de faire cesser et de punir les violations de la Convention, et les États et les entreprises ont obligation de mettre fin aux liens commerciaux et militaires avec le génocide. Cela implique de s'abstenir de fournir des armes et des équipements militaires à tout État soupçonné de commettre des actes génocidaires. Depuis 76 ans, Israël utilise les armes et la technologie militaire qui lui sont fournies par l'Occident et d'autres pour perpétrer des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, y compris l'apartheid et maintenant le génocide, afin de faire avancer son projet de colonisation visant à nous faire disparaître de notre terre. L'impunité et la complicité doivent cesser maintenant.
88.4, donc, Radio Galère, toujours. Et maintenant, on passe à un texte qui nous parvient de Gaza, de Rafah plus spécialement, envoyé par un médecin, Mohamed Dja, et ce sont les médecins de Palmed qui nous l'ont fait parvenir. Voilà ce qu'il dit. La situation dans l'est de Rafah est désormais catastrophique, destruction totale, il n'y a rien d'intact. Le proche est et le centre de Rafah ont été complètement détruits. Des quartiers résidentiels entiers ont été dévastés et personne ne peut y accéder. Si quelqu'un arrive, l'armée israélienne le tue immédiatement. Les gens sont tous entassés en bord de mer, depuis la région de Khan Younis jusqu'à Al-Qarara, une très petite zone. Aujourd'hui, la situation est devenue tellement désastreuse depuis que le passage a été fermé, ou plutôt détruit, pour empêcher, entre autres, l'entrée de l'aide dans la bande de Gaza. Nous ne trouvons plus de nourriture et il est très difficile de l'obtenir à des prix très élevés lorsque nous trouvons quelque chose à consommer. Aussi, obtenir de l'eau est devenu très difficile, y compris l'eau potable, qui est plutôt de l'eau dessalée. Ce que nous utilisons pour le bain et le lavage est aussi devenu difficile à obtenir et tout cela est dû au manque de gasoil, ce qui est également la raison pour laquelle les hôpitaux qui n'ont pas été détruits sont totalement hors service. Le transport aussi, les déplacements sont devenus très compliqués au point que les routes, les trajets qui nous prenaient 5 minutes auparavant prennent maintenant une heure complète. La route qui mène à l'hôpital européen de Gaza est devenue si difficile que je suis maintenant confrontée à une grande difficulté lorsque je me rends à mon travail à l'hôpital. Les organisations internationales sont maintenant présentes là où les gens sont et où ils ont travaillé pour établir des centres dispensant des soins primaires. Beaucoup de choses liées à la santé ont été perdues et la plupart des patients manquent du minimum dont ils ont besoin pour leur traitement. La plupart des services offrant des services limités en raison du manque d'équipement et de ressources médicales. De plus, les patients sont incapables d'atteindre les hôpitaux qui sont encore existants. Vous pouvez imaginer que la situation est très complexe. La plupart des patients finissent par mourir parce qu'ils ne peuvent pas se rendre à l'hôpital ou parce que les ressources et le traitement ne sont pas disponibles. Voilà, c'est ce témoignage en rappelant que les bilans qui sont donnés par les autorités de Gaza et qui sont maintenant de 36 050 ou 36 100 morts ne prennent en compte que les blessés ou les malades qui arrivent à l'hôpital. Ceux qui meurent à la maison, ceux qui meurent dans les rues ne sont pas pris en compte. Donc, comme le disait un expert militaire français, le bilan est certainement, malheureusement, beaucoup plus élevé que ce que l'on connaît, ce qui est annoncé. Change de sujet pour arriver à la mobilisation des étudiants. vous le savez, les campus bougent dans tous les sens. Et ça commence aussi, ça bouge aussi à l'université Aix-Marseille, où depuis plusieurs années déjà, quelques années, la direction de l'université s'emploie à interdire toute parole qualifiée de pro-palestinienne. Rappelons l'annulation à la dernière minute de la présentation du rapport d'Amnesty International sur l'apartheid israélien qui devait être présenté par le président d'Amnesty France, puis le refus de toute salle pour des conférences de Pierre Stamboul sous le fallacieux prétexte d'une demande non conforme, l'interdiction de séminaires avec des doctorantes et des chercheurs, et bien sûr, l'interdiction de distribution de tracts avec une chasse aux étudiants, une répression, des menaces et des convocations pour sanctions disciplinaires. Ça, c'est à Aix-Marseille Université. Le président Éric Berton, un bon petit soldat de la Macronie, applique rigoureusement les consignes qui arrivent du ministère de l'Éducation, ministère des Universités. Et tout cela drivé par un Gérald Darmanin bien caché derrière d'autres ministères. C'est aussi ailleurs que cela bouge beaucoup, en particulier à Sciences Po et aussi à l'ENS, l'École nationale supérieure. Alors on va peut-être écouter un petit entretien, ou enfin une petite déclaration d'une jeune diplômée qui a témoigné récemment.
Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Discours d'une étudiante de l'École normale supérieure lors de la cérémonie de remise des diplômes le 24 mai 2024, cérémonie déplacée par la direction en raison de la fermeture des bâtiments du 45 rue d'Ulm, occupés par les étudiants. Ce qui me pose un sérieux problème personnellement, c'est aujourd'hui d'être diplômée d'une école qui détourne le regard sur des revendications justes au vu du droit international et qui tente de faire passer cette occupation pour une révolte dont les proportions sont injustifiées. Un génocide est en cours, nous ne pouvons fermer les yeux. En déplaçant cette cérémonie de diplôme loin de cette mobilisation étudiante, la direction ferme les yeux. En n'appelant pas au cessez-le-feu immédiat, les institutions ferment les yeux. En accueillant il y a 3 jours le ministre israélien Katz, l'État français ferme les yeux.
On revient sur les campus avec cet article de l'agence Média Palestine qui date du mois dernier et qui explique ceci à propos de sciences politiques. Le campus Saint-Thomas à l'école française Sciences Po a été occupé par ses étudiants. À l'initiative du comité Palestine Sciences Po, les étudiants ont installé un campement sur le parterre de la cour intérieure de l'école afin de faire entendre leurs revendications à la direction. En particulier l'association des liens entre Sciences Po Paris et les universités israéliennes et l'arrêt de la persécution des voix pro-palestiniennes au sein de l'école. Sur une banderole, on peut y voir la même affirmation qu'on a pu retrouver sur les banderoles déployées dans les universités américaines, Columbia et Harvard ces derniers jours. Il n'y a plus d'université à Gaza. Sciences Po Paris est la deuxième école au rang mondial en sciences politiques et en relations internationales en 2024 derrière Harvard et devant Oxford. Et elle est ainsi la première université européenne. Parmi les revendications des étudiants figure donc la demande d'une prise de position de la part de l'école quant au scolasticide, en cours à Gaza. C'est-à-dire la destruction systématisée du savoir palestinien dans le contexte de la colonisation et de l'occupation de la Palestine par Israël depuis des décennies, selon la professeure Kama Naboulsi. L'annihilation totale d'un système éducatif dans son ensemble, éducateurs, étudiants, professeurs, bâtiments, ressources universitaires, relève, selon Madame Daboulsi, d'une intention génocidaire. La politique coloniale israélienne à Gaza est passée de la destruction systématique à l'anéantissement total de l'éducation. Il existe en effet une relation intime entre génocide et scolasticide. La direction de l'école n'a pas entendu les étudiants qui ont manifesté pacifiquement dans la cour de l'école ce mercredi 24 avril. Dans la nuit, la police est intervenue, expulsant les étudiants avec une certaine violence, étudiants assis dans l'enceinte de l'école et délogeant l'encampement en soutien à la Palestine, pour reprendre le terme universitaire états-unien. Dans un communiqué publié le jeudi 25 avril 2024, le collectif des étudiants affirme poursuivre l'occupation du campus jusqu'à l'acceptation de leurs revendications par l'administration de Sciences Po. Voici les revendications édictées par le comité d'étudiants: la condamnation claire des agissements d'Israël par Sciences Po, qui jusqu'ici persiste dans un deux poids deux mesures déshonorant alors qu'un génocide se poursuit à Gaza, la tenue d'une veillée minute de silence en mémoire aux innocents tués par Israël depuis le 8 octobre, car la justice, la dignité et les droits humains valent aussi pour les Palestiniens et Palestiniennes, l'investigation de toutes les institutions ou entités suspectées de participer à la perpétration de l'oppression systématique du peuple palestinien, menant à la fin de la collaboration en cas de complicité avérée. La mise en place de mesures visant à protéger les étudiants défendant les droits des Palestiniens et des Palestiniennes de toute forme et toute forme de harcèlement sur le campus, ainsi que l'arrêt des poursuites disciplinaires de la part de l'administration qui vise à intimider les étudiants engagés pour la justice. Petit rappel, je n'ai pas mentionné tout à l'heure à propos de Aix-Marseille Université, que les étudiants ont lancé une occupation de l'université et qu'ils ont été, même pas au bout de 24 heures, délogés par des CRS envoyés par toujours Éric Berton, le président de Aix-Marseille Université. Donc pour revenir à Sciences Po, la réponse de l'école parisienne par la force s'inscrit dans un contexte plus global en France de criminalisation systématique du soutien à la Palestine. En effet, ces dernières semaines, les convocations par la police pour apologie du terrorisme pleurent sur les personnalités françaises exprimant leur solidarité avec la Palestine, en particulier récemment Mathilde Panot et Rima Hassan. À l'international, les mouvements étudiants de soutien à la Palestine prennent de l'ampleur, de la force et résonnent plus largement. Ils sont aussi violemment réprimés. Columbia University, Melbourne, Austin, Harvard, Sydney, les universités les plus prestigieuses adoptent une technique fédératrice dans le milieu étudiant et, ayant fait ses preuves dans le passé, l'occupation pacifique des lieux afin d'être entendue. Un autre article revient sur l'embrasement des universités, des campus universitaires dans le monde, pardon, en solidarité avec les universités palestiniennes de Gaza, mais plus largement de toute la Palestine occupée. Et c'est en particulier, pour ceux qui les ont vus, ces images qui nous ont interpellés. Elle avance encore de quelques pas, une femme s'approche de policiers. Ils sont en train d'évacuer une tente installée dans la cour de l'université. Elle leur demande ce qu'ils font. Un policier l'empoigne, il la rudoie, la plaque à terre, elle est menottée, tandis que sa tête heurte le sol. Elle hurle « Je suis une professeure ». Elle s'appelle Caroline Follin, c'est une spécialiste reconnue de l'histoire du système financier. « Vous êtes des fascistes », lancent des manifestants. Dans une autre vidéo, une autre femme menottée est emmenée par la police. « Je suis désolée, que puis-je faire pour vous ?» demande un vidéaste. Appelez le département de philosophie, dites-leur que j'ai été arrêtée. Je suis la responsable du département. Cette dame à la voix calme se nomme Noël McAfee. Ironiquement, ses travaux universitaires portent sur la façon dont les États-Unis, depuis le 11 septembre, se sont enfermés dans une pathologie, celle de la guerre sans fin au terrorisme. Et nous ne pouvons pas oublier non plus ces images des campus de Washington ou New York qui ont été sauvagement attaqués par des groupuscules sionistes, les équivalents des LDJ, ont matraqué, gazé sous le regard bienveillant de la police. Aux États-Unis, toujours, la liste des mobilisations des campus est impressionnante. À Los Angeles, 93 personnes ont été arrêtées sur le campus de l'Université de Caroline du Sud. Le campement installé à l'Emerson College de Boston, dans le Massachusetts, a été évacué avec 108 arrestations à la clé. Une cinquantaine d'arrestations ont été constatées à l'université d'Austin, au Texas, grande ville progressiste dans le sud, très conservateur. Et puis, ces derniers jours, enfin en tout cas, au dernier jour d'avril, des étudiants ont manifesté et tenté d'installer des campements dans des prestigieuses universités de Princeton, dans le New Jersey, Harvard, Massachusetts, Cornell, État du New York, New York University, Yale, Connecticut et Northwestern dans l'Illinois. La mobilisation s'est aussi étendue à des campus plus petits en Indiana et dans l'Ohio, deux États du Midwest, en Pennsylvanie, dans le nord du pays, en Floride et dans le Missouri, dans le sud. Voilà, les étudiants eh bien, souhaitent que les universités fassent la transparence sur les contrats passés avec l'État israélien, notamment dans le domaine policier et militaire. Selon un chiffre public rapporté par l'agence Associated Press, 100 universités américaines ont fait état de dons ou de contrats en lien avec l'État d'Israël ces deux dernières décennies, pour un montant total de 375 millions de dollars. Des chiffres peu précis, affirme l'Associated Press, puisque non détaillé. BDS, dit Sylvie Laurent, devient un point de ralliement. Et il faut aussi préciser qu'il y a tout un problème spécifique de désinvestissement pour les universités aux États-Unis. Ces étudiants, des milliers d'étudiants, se sont mobilisés et leur premier interlocuteur n'est pas Biden, mais leur université en tant qu'institution. Les universités sont des machines à cash, des entreprises privées extrêmement lucratives et capitalistiques. Les étudiants paient leur scolarité très cher, c'est donc à elles, en premier lieu, qu'ils dirigent leurs demandes. Dans le même temps, la gestion du magot des universités est de plus en plus financiarisée, rappelle le New York Times, car elle est largement confiée à des gestionnaires de fonds qui eux-mêmes investissent dans une série de produits financiers, ce qui rend les investissements des universités encore plus difficiles à tracer. Voilà, ça c'était pour les États-Unis, mais revenons un petit peu vers chez nous, sur les revendications portées par les étudiants de Sciences Po. Elles regroupent d'ailleurs celles des étudiants américains. Ils exigent la condamnation claire des agissements d'Israël par Sciences Po et demandent à leur école de couper les liens financiers, de réexaminer les partenariats avec les universités israéliennes complices des crimes de l'État hébreu. Plusieurs étudiants interrogés citent l'exemple de l'Université hébraïque de Jérusalem, dont Sciences Po est partenaire, et qui a bâti plusieurs campus dans les territoires palestiniens occupés. Particulièrement, on dénonce le double standard de l'université, qui, l'année passée, a très rapidement suspendu l'intégralité de ses accords de coopération avec les universités russes, dénonce Orient, étudiant en deuxième année de master en sciences politiques et recherche. Symbole de la dimension internationaliste de ce mouvement, les slogans et prises de parole sont systématiquement dupliqués en anglais à l'adresse des étudiants étrangers, nombreux à avoir rejoint le rang de la mobilisation pro-palestinienne. Et ce qui étonne aussi les étudiants, essentiellement dans les programmes Erasmus ou les programmes européens, les étudiants européens qui sont ici, c'est la répression qui s'abat sur les étudiants. Voilà, c'était un petit peu ce que je voulais vous dire sur ce qui se passe. Il y a peut-être encore quelques informations. Ah oui, l'information, c'est évidemment qui a pris position pour soutenir ces étudiants. Eh bien, évidemment, les étudiants un peu partout en France, mais aussi LFI. Aussi, le secrétaire du Parti socialiste, dont je viens d'oublier le nom, Olivier Faure, pardon, et... extrêmement étrange, mais important de le citer en cette période peu préélectorale, qu'on fasse preuve de solidarité à l'égard des Palestiniens, qu'on montre le rejet des crimes qui sont commis à Gaza, c'est naturel, c'est même digne et c'est noble. Après, dans quelle atmosphère le fait-on ? Est-ce qu'on est inclusif ? Est-ce qu'on tolère le débat ? Est-ce qu'on est capable d'organiser des discussions avec ceux qui ne partagent pas ce point de vue ? Jusqu'à présent, il n'a rien dit d'extraordinaire, ce monsieur. Jusqu'ici, jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas le cas, dit-il. Et donc, on a un problème et la direction de Sciences Po a le droit de décider d'évacuer. Et qui a dit cela ? C'est M. Glucksmann, par ailleurs ancien élève de cet établissement. Voilà, on va peut-être faire une petite pause musicale pour vous laisser souffler et pour que je souffle moi aussi. Et on se retrouve après. Pour continuer sur le droit, la Cour internationale, la Cour pénale internationale et la Cour internationale de justice. Alors, 88.4, Radio Galère et Une heure en Palestine. On va parler maintenant de la Cour pénale internationale et de la Cour internationale de justice parce qu'il nous a semblé qu'il y avait parfois confusion sur ce que étaient ces deux institutions et ce qu'elles pouvaient faire. Certains allant jusqu'à dire qu'en fait, elles ne font rien parce qu'elles n'ont pas les moyens de faire quelque chose. Alors, qu'est-ce que c'est que la Cour pénale internationale ? Le statut de Rome ou statut de la Cour pénale internationale a été adopté lors d'une conférence diplomatique des Nations Unies. C'est pour cela qu'on parle soit du traité de Rome, soit de la conférence de Rome, soit de la Cour pénale internationale. Et cela s'est déroulé du 15 juin au 17 juillet 1998. Donc vous le voyez, c'est très récent. Et il est rentré en vigueur le 1er juillet 2002. Après sa ratification par 60 États, c'est-à-dire que cela a été signé après la conclusion, après la publication du rapport, et ensuite ratifié par les parlements de ces 60 États. C'était la condition fixée pour qu'il rentre en application. C'est régulièrement le cas, ce n'est pas une exception pour la Cour pénale internationale. C'est une institution permanente qui peut exercer sa compétence à l'égard des personnes pour les crimes les plus graves ayant une portée internationale au sens du présent statut. Elle est complémentaire des juridictions pénales nationales, c'est-à-dire qu'en principe, les criminels de guerre, les criminels politiques, doivent être jugés par des tribunaux dans leur pays. Si ce n'est pas le cas, cela devient du ressort de la Cour pénale internationale, qui juge des personnes. Elle est liée aux Nations Unies. Elle a été créée par une conférence des ministres ou des participants des Nations Unies. Sa compétence, selon l'article 5, elle est compétente pour les crimes relevant. Elle est limitée, aux crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. En vertu du présent statut, la Cour a compétence à l'égard des crimes suivants. Le plus important est le crime de génocide. Ensuite, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, le crime d'agression. Avant la création de la Cour pénale internationale, il existait ce qu'il s'appelait des tribunaux ad hoc. Il y a eu le tribunal pénal pour le Rwanda, pour l'ex-Yougoslavie, pour juger des crimes qui étaient commis, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, qui étaient commis dans certains types de conflits. Et certaines personnes ont été jugées. En particulier, citons un des derniers exemples qui a été acquitté, c'était le président Gbagbo, qui avait été accusé de crimes de guerre ou crimes contre l'humanité, et qui a été, chose rare dans les cas qui s'étaient produits jusqu'à présent, qui a été acquitté. L'article 6 parle du crime de génocide, et c'est important d'y revenir parce qu'aujourd'hui on entend tout et son contraire, en particulier de nos très intellectuels politiques, politiciens, qui parlent du crime de génocide sans savoir de quoi ils parlent. Par crime de génocide, et tel qu'il est défini dans le statut de la Cour pénale internationale, on entend par crime de génocide l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie, en tout ou en partie, je répète, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de détruire la totalité du groupe, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Et cela consiste au meurtre de membres du groupe, aux atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe, à la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence pouvant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, à des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe et au transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. C'est ce qui a valu ce dernier point, le point E de l'article 6, c'est ce qui a valu l'inculpation et le mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine pour avoir transféré des enfants d'Ukraine en Russie. Aujourd'hui, dans le cas de la Palestine, et contrairement à ce que prétendent un certain nombre d'ignares en matière de droit international, eh bien, nous avons au moins, comme le disait Francesca Albanese, la représentante des Nations Unies pour le Moyen-Orient, pour les territoires palestiniens, il y a au moins trois de ces critères, ne serait-ce que celui qui est le plus terrible, peut-être, quelque part, mesure visant à entraver les naissances au sein du groupe. Aujourd'hui, on sait que le taux de fausses couches a été multiplié par, est passé de, a été multiplié par 3. On sait que les bébés qui naissent viables meurent parce que, soit de froid, parce qu'il n'y a rien pour les tenir au chaud sous les tentes. Bon, avec l'été qui arrive, c'est moins. Mais pendant l'hiver, il y a eu beaucoup de bébés qui sont morts. Tous les prématurés sont morts et il y a eu beaucoup de prématurés. Outre les fausses couches, énormément de prématurés parce que les mamans étaient anémiées, n'avaient pas des conditions de vie correctes, manquaient de nourriture et ont eu des accouchements anticipés. Et on ne parle pas des césariennes, bien évidemment, qui se faisaient sans anesthésie, enfin toutes les horreurs dont on a pu déjà parler. Il y a aussi, par exemple, une soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale et partielle, l'utilisation de la famine comme arme de guerre, et puis évidemment les bombardements incessants. Voilà, il y a aussi tout ce qui vise à détruire, on parlait tout à l'heure de la destruction des universités, la destruction des hôpitaux, tout ce qui vise à détruire la capacité de vivre pour les groupes qui sont visés. Alors la Cour est compétente à l'égard des personnes physiques. Elle ne juge pas des États, ça c'est la prérogative de la Cour internationale de justice. Là, elle juge des personnes. Et toutes les personnes sont individuellement responsables, c'est-à-dire que là, dans le cas de la demande qui a été faite par le procureur Karim, ça y est, j'ai oublié aussi son nom, le dernier procureur de la Cour pénale internationale vient de demander au juge de la Cour, lui c'est le procureur, il a un bureau de procureur, il a mené une enquête et il demande au juge du tribunal de délivrer des mandats visant spécifiquement 3 personnes du Hamas, 3 dirigeants du Hamas et 2 ministres, 2 responsables israéliens, en particulier Benjamin Netanyahou, qui est personnellement et individuellement responsable. Alors, au terme de ce statut, une personne est pénalement responsable et peut être punie pour un crime relevant de la compétence de la Cour si elle commet un crime, que ce soit individuellement ou en lien avec une autre personne ou par l'intermédiaire d'une autre personne, que cette personne soit, elle, soit ou pas, pénalement responsable. Par exemple, quand un ministre des armées donne l'ordre à des soldats d'aller tuer ou tient des discours parlant d'anéantir les cancers que sont les populations de Gaza, il est coupable, peut être coupable du crime de génocide lorsque cette personne ordonne, sollicite ou encourage la commission d'un tel crime. Dès lors, il y a commission ou tentative de commission de ce crime. Donc, certain nombre de nos élus devraient tourner 7 fois leur langue dans la bouche, y compris, je vise quelqu'un en particulier au niveau de l'Assemblée nationale, qui a tenu des propos dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, incitant au génocide, et il mériterait, à mon sens, d'être traduit devant la Cour pénale internationale, en tout cas que son dossier remonte auprès du procureur Karim Khan. Ça y est, son nom m'est revenu. Et je précise au passage que lui-même, comme sa prédécesseur, Madame Ben Saouda, qui a terminé son mandat il y a l'année dernière, ont été alors non seulement victimes de menaces sur eux-mêmes, victimes de menaces sur leur famille. Tous les juges ont aussi été victimes de menaces et ils ont été espionnés par les services du Mossad pour que tous les dossiers qui leur parvenaient, tout ce qui circulait entre eux et les juges et tout ce qui leur arrivait, transmis par les Palestiniens, transmis par des ONG, soient espionnés de manière à ce que les autorités israéliennes puissent préparer leur défense et s'ils le pouvaient. Non seulement il y a eu ça, je reviens, mais par exemple Madame Ben Saouda, on a essayé de l'acheter en lui faisant des propositions fort malhonnêtes, pour qu'elle ne traduise pas ou qu'elle ne monte pas le dossier. Et ce qui explique aussi le temps très très long qu'il a fallu depuis que la Cour pénale internationale a été saisie de tous ces dossiers. Voilà. Donc, Cour pénale internationale, elle juge des personnes, elle s'inscrit à la compétence pour traiter les crimes les plus graves. Elle ne juge pas des États, mais des personnes. Peut-être un article, eh bien c'est un article, une interview. Alors j'ai beaucoup travaillé pour préparer cette émission avec les articles de Mediapart. Et là c'est un article de Rachida El Azouzi qui date du 22 mai. Je tiens à rendre hommage et à inciter tous les lecteurs, ce n'est pas de la publicité, mais c'est vraiment qu'il faut que l'on soutienne tous les médias qui font du vrai travail de journaliste. Je l'ai dit à plusieurs reprises, mais très franchement, là, aujourd'hui, on peut constater des organismes comme Orient 21, Mediapart, Politis, Le Monde Diplomatique, qui font véritablement du travail de journaliste et qui nous fournissent des informations précieuses, des analyses précieuses qui nous permettent de nous faire des idées et non pas de jacasser comme nos politiques et politiciens sont friands de le faire. Donc là, c'est un petit article de Julien Fernandez, qui est professeur à l'Université Panthéon-Assas, qui est un spécialiste du droit international pénal et qui a été élu récemment, en décembre 2023, membre de la commission consultative pour l'examen des candidatures au poste de juge de la Cour pénale internationale. Je ne suis pas rentrée dans les détails, mais effectivement, lorsqu'un juge veut siéger à la Cour pénale internationale, lorsqu'il est proposé, il y a tout un examen qui se fait de son dossier. Et je précise, ce n'est pas parce qu'il y a le juge français ne représente pas la France. Il est nommé en tant que personne et pas du tout en tant que représentant d'un État. Et il y a un juge français, M. Abraham, alors là, je ne connais pas son nom, qui juge en tant que personne et qui a d'ailleurs voté toutes les, comme tous ses collègues, les seuls qui ont voté différemment est la juge, alors je dis juge ougandaise, mais l'Ouganda a bien précisé qu'elle ne représentait pas l'Ouganda. Elle était là en tant que personne indépendante. Donc là, nous avons M. Julien Fernandez qui a été interviewé et Mediapart lui demande, procureur de la CPI, communique publiquement le dépôt d'une requête. Comment l'expliquez-vous? Parce que ce n'est pas la procédure habituelle. La procédure habituelle, c'est le procureur transmet à la cour, au juge, et c'est ensuite la décision des juges qui est rendue publique. Et la réponse de Julien Fernandez est « Cela s'explique évidemment par la sensibilité de l'affaire et la pression politique subie depuis quelques semaines par la Cour pénale internationale. La situation en Palestine est un espace de transgression de bien des règles de droit international, mais c'est aussi un conflit de passion où chaque démarche juridictionnelle peut être instrumentalisée et disqualifiée. » Le procureur a cherché à expliquer et à justifier le plus possible sa stratégie pénale, quitte à s'appuyer sur l'avis de personnalités extérieures. Un groupe de juristes principalement britanniques, juristes réputés et médiatiques, dont Amal Clooney, l'acteur Clooney, George Clooney, est l'époux, et qui est Amal Clooney, qui est une spécialiste du droit humanitaire international et qui a été étroitement associée à sa communication. Voilà, il s'agit de dépersonnaliser la démarche de Karim Khan. Alors vous pouvez juste imaginer, c'est un des postes les plus prestigieux en termes de droit. Il est obligé de dépersonnaliser pour éviter d'être les pressions, enfin pour limiter les pressions et l'impact que cela va avoir sur lui et sur sa famille. Vous pouvez juste imaginer à quel point les juges partout dans le monde sont sous la pression des lobbies et des soutiens de l'État d'Israël, puisque cette plus haute juridiction est obligée de mettre des paravents de tous les côtés pour se protéger. Donc la démarche de Karim Khan, eh bien, c'est de dépersonnaliser la démarche et de s'appuyer sur l'avis d'une sorte d'instance ad hoc légitimante. Les experts insistent d'ailleurs sur l'unanimité de leur soutien, tant au sujet des charges retenues que des personnes visées. Avec la mobilisation de la Cour pénale internationale dans la situation en Ukraine, sa passivité à l'égard de l'autre grande situation de crise dans le monde n'était plus tenable, a fortiori au regard de l'intervention de la Cour internationale de justice dans le contentieux interétatique lié, c'est-à-dire la saisine de la Cour internationale de justice, l'autre instance, par l'Afrique du Sud, et là c'est un conflit, enfin en tout cas c'est un désaccord entre États, l'Afrique du Sud, et Israël, mais à cette procédure de l'Afrique du Sud se sont joints plus d'une dizaine d'États dans le monde qui ont rejoint la demande de l'Afrique du Sud, même si elle reste toujours connue, cette saisine de la Cour internationale de justice, comme celle de l'Afrique du Sud. Mais il y a le Venezuela, par exemple, qui s'y est joint, la Libye, pour ne citer que les deux qui me reviennent en mémoire. Voilà, encore quelques mots sur cet entretien qui est extrêmement intéressant et que vous pouvez retrouver chez Mediapart. Eh bien, une question qui est, cette volonté du procureur d'agir de manière collective est-elle aussi le moyen de se protéger de multiples oppressions? Eh bien, voilà, c'est un petit peu ce que je disais. Karim Khan tire les leçons des difficultés rencontrées par la procureure précédente, Fatou Bensouda, qui a fait l'objet de multiples pressions hostiles de la part des États-Unis pour avoir notamment demandé l'ouverture d'une enquête sur la situation en Afghanistan, qui s'intéressait aussi aux crimes de guerre présumés de l'armée américaine sur place. On songe en particulier aux méthodes d'interrogatoire et aux conditions de détention pratiquées. Et nous reviendrons dans une prochaine émission sur ce qui se passe actuellement dans les prisons israéliennes, en particulier dans une prison dans le désert du Nakab, en arabe, Negev en hébreu, où les conditions de détention et de traitement des prisonniers sont exactement ou quasiment les mêmes que ce qui s'est passé à Guantanamo. Le maître et les élèves, on ne sait plus dans cette histoire qui est le maître, qui est les élèves entre les États-Unis et Israël. Voilà, je vais peut-être terminer là-dessus. Il y a beaucoup d'informations, en particulier les déclarations de ce comité de juristes qui a été créé. Et il dit, ouais, je vais juste les citer, le groupe est... dit, c'est dans ce contexte qu'en tant qu'avocat spécialisé en droit international, issu d'horizons personnels différents, nous avons estimé que nous nous devions d'accepter l'invitation à fournir un avis juridique, impartial et indépendant fondé sur des preuves. Nous avons été sélectionnés en raison de notre expérience en matière de droit international public, de droit international des droits de l'homme, de droit international humanitaire et de droit pénal international. Et dans le cas de deux d'entre nous, de notre expérience en tant qu'ancien juge de tribunaux pénaux internationaux. Le groupe est unanimement d'accord avec la conclusion du procureur selon laquelle il existe des motifs raisonnables de croire que trois des plus hauts dirigeants du Hamas ont commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, comprenant le meurtre de centaines de civils, la prise d'au moins 245 otages et des actes de violence sexuelle perpétrés sur des otages israéliens. Le comité convient également à l'unanimité que les preuves présentées par le procureur fournissent des motifs raisonnables de croire que Benjamin Netanyahou et le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, ont commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Cela inclut l'utilisation délibérée de la famine comme arme de guerre contre la population civile qualifiable comme crime de guerre et le meurtre et la persécution des Palestiniens et Palestiniennes qualifiables comme crimes contre l'humanité. Les raisons qui nous conduisent à ces conclusions sont exposées dans notre rapport juridique. Voilà. Il aurait pu y avoir, si on avait eu 3 heures d'émission, on aurait pu vous parler de cette déclaration de Menachem Klein, professeur de sciences politiques en Israël, qui dit « La décision de la Cour pénale internationale est une honte pour Israël ». Mais visiblement, je termine juste, faut que je vous le cite quand même, ça, c'est très important. L'entretien fait 2 pages complètes et il est passionnant, mais on n'a pas vraiment le temps. Donc... comment définiriez-vous Israël aujourd'hui ? Il dit, depuis le début, depuis 1948, Israël est une société militaire. Quelques processus démocratiques adoucissant ce militarisme. Seulement, au XXIe siècle, les institutions démocratiques se sont affaiblies. Elles sont aujourd'hui gravement malades et faibles. Ce qui domine et définit Israël aujourd'hui, c'est la suprématie juive. Israël n'est plus celui de Yitzhak Rabin. Il a changé de façon spectaculaire. C'est une société et un régime ethnocentré. La question suivante est la dernière question posée. Et son armée ? Et il répond, les soldats messianiques religieux nationaux représentent une grosse minorité dans les unités combattantes, jusqu'à 30 ou 40%. Ils considèrent qu'ils mènent une sorte de djihad, de guerre sainte juive contre le Hamas, et ils veulent se réinstaller dans la bande de Gaza. Parmi eux, il y a des commandants en chef, des généraux même. Ils ont un impact certain sur les parachutistes et les unités de combat. Le nouveau chef de commandement central est un colon. Il est maintenant le commandant de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. C'était un article de Gwenaël Lenoir. Alors, tous ceux qui vous disent « Mais Israël est un État démocratique, vous n'allez pas comparer ?» Ben oui, on compare. Parce que c'est un État théocratique qui n'a plus rien de démocratique depuis très longtemps. C'est un État militaire qui massacre, qui commet des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité et qui n'a rien à envier aux pires dictatures dans le monde. Et évidemment, le soutien de la France à la Cour pénale internationale eh bien, creuse des grosses difficultés au sein de la majorité présidentielle. Alors on a d'un côté, voilà ce que je disais tout à l'heure, mais enfin quoi ? Le Hamas a sciemment organisé des crimes monstrueux et depuis la fin octobre, ce gouvernement bombarde sans aucune pitié et sans aucune pitié la population de Gaza. Et il faudrait s'étonner que le procureur de la Cour pénale veuille entraîner des poursuites contre les responsables de ces 2 crimes. Je ne m'en étonne pas. Ceci est une déclaration de Bernard Guetta, candidat aux européennes, en deuxième position sur la liste de Valérie Ayer. Et cette déclaration a mis le feu aux poudres au sein de la majorité. Une avalanche de messages, députés Renaissance, certains ironisant sur le fait qu'il ne servait à rien d'aller chercher des voix chez LFI. Si Israël ne prévenait pas des frappes par messagerie ou tracts distribués, il n'y aurait pas 24 000 morts, dont 12 000 terroristes du Hamas. Alors là, c'est exactement le discours israélien, le discours de l'armée israélienne et de ses porte-paroles. Mais 200 000 a notamment écrit un élu macroniste dans un message que Mediapart a pu consulter. Plus tôt dans la journée, le ministre des Affaires étrangères avait pourtant tenté de satisfaire toutes les positions du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, annonçant qu'il répondrait sans outrance à une interpellation de la députée insoumise Nathalie Auziol sur la décision de la CPI. Alors, Stéphane Séjourné est bien dans l'hémicycle. Il a tenté de ménager tout le monde. La France reconnaît l'indépendance de la Cour pénale internationale. Mais ces demandes de mandat d'arrêt simultané ne doivent pas conduire à mettre un signe d'équivalence entre le Hamas et Israël, a-t-il affirmé, soulignant que si le groupe terroriste palestinien et la démocratie israélienne n'étaient pas comparables, cette dernière devait toutefois respecter le droit international, quand bien même elle n'aurait pas déclenché la guerre. Stéphane Séjourné, ministre des Affaires étrangères, on a envie de pleurer tellement l'image de la France est dégradée par ces incompétents qui sont là par copinage. Voilà. Alors, la guerre n'a pas commencé le 7 octobre. Elle a commencé bien avant, on va dire, il y a plus de 120 ans, avec... on va arrêter là. Non, même pas 120 ans, mais lorsque Lord Balfour a fait une déclaration disant que... il fallait créer un État national juif en Palestine au mépris de la population palestinienne qui existait là-bas et que cela a été fait sans la consulter dans le plus parfait style de des colonisations occidentales un peu partout dans le monde. Voilà, je vais vous citer le républicain Éric Ciotti qui, tout comme le Conseil représentatif des institutions juives de France, le célèbre CRIF, qui ne représente pas les Juifs de France, mais un certain nombre d'organisations, et qui prétend parler au nom de personnes que nous, on rencontre tous les jours dans les rues, dans les manifestations, et qui ne veulent pas que les crimes commis par l'État d'Israël leur soient attribués et qui affirment pas en notre nom, eh bien, Éric Ciotti, a réclamé que la France quitte la Cour pénale internationale, estimant que celle-ci est décrédibilisée. Ce qui est absolument extraordinaire, c'est que tous ces ignorants se croient en capacité, qui ne connaissent rien au droit, encore moins au droit international humanitaire ou au droit international des droits de l'homme, se permettent d'avoir un avis. D'ailleurs, ils ne se gênent pas pour taxer les étudiants de sciences politiques. Je l'ai dit tout à l'heure, la plus prestigieuse université en Europe, la première université en Europe et la seconde dans le monde, taxer ces étudiants d'ignorants qui ne connaissent rien et qui sont manipulés. Voilà le respect qu'ils ont pour des gens qui sont la future élite de ce pays. On va arrêter avec la Cour pénale internationale. Il nous reste peu de temps. Je ne sais pas si on aura le temps d'examiner la Cour internationale de justice, mais on fait une toute petite pause musicale, histoire de souffler, de vous laisser souffler et de reprendre mon souffle.
سلام لغزة سلام 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 لكل العيون الحزينة تفيض دموعها بأسا وعزة سلام سلام لغزة سلام سلام لغزة سلام 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 لكل العيون الحزينة تفيض دموعها بأسا وعزة سلام سلام لغزة سلام سلام لشعب أبي عنيد بسهل خزايا يلم الحصيد وحين يصد وحوش الحروب يشيع في كل يوم شهيد ويصمد في وجه كل الخطوب بعزم وفخر وبأس شديد فقد علمته قضايا الشعوب بأن الحديد يفل الحديد سلام لغزة سلام 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 لكل العيون الحزين تفيض دموعها بأسا وعز سلام سلام لغزة سلام.
Alors, c'était le chœur des enfants de Jabalia qui chantait le salut à Gaza. Quelques mots sur la Cour internationale de justice. Je pense qu'on n'aura pas vraiment le temps de développer, mais quand même pour faire le parallèle avec ce qui a été dit précédent sur le tribunal, la Cour pénale internationale, c'est important qu'il y ait les deux en même temps dans cette émission. On reviendra dans une prochaine émission plus profondément sur la Cour internationale de justice. Elle a été créée à partir de 1943 et elle remplace une ancienne institution qui avait à peu près le même rôle, mais qui était liée à la Société des Nations, Société des Nations qui a existé jusqu'en 1945, où elle a été dissoute pour donner place à l'actuelle Organisation des Nations Unies. Ça revient à ces vieilles traditions de règlement des conflits, qui sont stipulées dans la Charte des Nations Unies, qui, voilà ce qu'elle mentionne dans l'article 33, la négociation, l'enquête, la médiation, la conciliation, l'arbitrage, le règlement judiciaire et le recours aux organisations ou accords régionaux pour traiter des conflits entre États, de manière à éviter les guerres. Alors, la médiation, c'est les deux parties en litige qui désignent un juge. Les deux États désignent un juge qui va statuer. Voilà, c'est un règlement, on va dire, pratiquement à l'amiable avec une tierce personne. Par contre, l'arbitrage va plus loin parce qu'il reprend les différences, enfin les problèmes, les divergences entre ces deux États et il impose un règlement qui est obligatoire lorsque le différend est tranché entre ces deux États. Par contre, le règlement judiciaire, c'est la méthode qui est mise en œuvre par la Cour internationale de justice, qui est le juge lié par des règles plus strictes que celles de l'arbitre précédent, que dans le cadre de l'arbitrage, notamment en matière de procédure. Donc il y a tout un statut de la Cour internationale de justice qui définit exactement comment elle doit procéder pour trancher le différend entre ces États. Elle a été créée, enfin il y a eu une première conférence le 30 octobre 1943 qui réunissait la Chine, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'URSS, qui n'était pas présent, mais c'est la France malheureusement. Et elle le traite du principe de l'égalité souveraine de tous les États pacifiques et elle est ouverte à tous les États pacifiques, grands ou petits, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationale. C'est l'idée de cette organisation qui devait être créée et qui deviendra l'ONU. Il y a eu des entretiens entre ces grandes puissances. Et puis, il y a eu des propositions relatives à l'établissement d'une organisation internationale générale qui comprenait notamment la Cour internationale de justice qui a été créée le 9 octobre 1944, enfin qui a été définie le 9 octobre. Et ensuite, après la création de l'ONU, etc., dissolution de la Société des Nations, dissolution de tous les organismes qui étaient rattachés à la dissolution des Nations. Et c'est entre avril et juin 1945 que la Charte des Nations Unies, dont par exemple le regretté Stéphane Hessel a contribué, qui a été écrite, la Charte des Nations Unies, qui aujourd'hui est que... Non, rappelons-le que l'ambassadeur d'Israël aux Nations Unies a déchiré il y a quelques jours en faisant encore le cinéma auquel nous a habitués depuis plusieurs mois. Voilà, la Cour, elle est l'organe judiciaire principal de l'Organisation des Nations Unies. C'est l'organe le plus important de la justice internationale. Il paraissait inopportun, donc à l'époque, de confier ce rôle à la Cour préexistante. Et qui a été dissoute pour créer les Nations Unies.
Que vous dire de plus on passe aujourd'hui à ce qui est... quels sont les membres de la Cour internationale de justice? Elle est composée de 15 juges élus pour un mandat de 9 ans par l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations unies. Ils sont inamovibles pendant les 9 ans, c'est-à-dire que quelles que soient les pressions, on ne peut pas les renvoyer. La Cour est renouvelable par tiers tous les 3 ans de manière à ce qu'il n'y ait pas de perte de compétences. Les juges sont rééligibles. Si un juge décède ou démissionne pendant son mandat, il est procédé dès que possible à une élection complémentaire pour la durée restant à courir. Par contre, lorsqu'il y a un litige entre les deux États, sont nommés 2 juges ad hoc qui représentent les deux États. Cela a été le cas pour l'Afrique du Sud. Il n'y avait pas de juge sud-africain ni de juge israélien. Il y a donc eu 2 juges ad hoc qui ont été nommés exceptionnellement. Voilà, je crois qu'on arrive au terme de notre temps. Juste un mot pour vous dire qu'hier, sur Marseille, pour ceux qui ne le savent pas, a eu lieu un très beau rassemblement devant les palais de justice pour exiger la justice pour Rafah, la justice pour Gaza, la justice pour la Palestine. Qu'il s'en est, quand je dis un très beau rassemblement, il a été magnifique. Il y a eu plusieurs milliers de personnes. Et rappelons un dernier mot, la fierté que nous avons avec le député Delogu qui a sorti le drapeau palestinien dans l'Assemblée nationale. Certes, Madame Brompivet qui a posé, elle, avec des généraux israéliens après le 7 octobre, a été la sanctionnée. Mais pour nous, comme il le dit lui-même, c'est une médaille que d'avoir sorti le drapeau palestinien à l'Assemblée nationale. Les députés italiens l'ont fait, ils n'ont pas été sanctionnés. Shut up.